Consuelo, livre 1, chapitre 34. Si l'ingénieuse et féconde Anne Radcliffe se fût trouvée à la place du candide et maladroit narrateur de cette très véridique histoire, elle n'eût pas laissé échapper une si bonne occasion de vous promener, madame la lectrice, à travers les corridors, les trappes, les escaliers en spirale, les ténèbres et les souterrains, pendant une demi-douzaine de beaux et attachants volumes, pour vous révéler, seulement au septième, tous les arcanes de son œuvre savante. Mais la lectrice esprit fort que nous avons charge de divertir ne prendrait peut-être pas aussi bien, autant où nous sommes, l'innocent stratagème du romancier. D'ailleurs, comme il serait fort difficile de lui en faire accroire, nous lui dirons, aussi vite que nous le pourrons, le mot de toutes nos énigmes. Et pour lui en confesser deux d'un coup, nous lui avouerons que Consuelo, après deux secondes de sang-froid, reconnut, dans la statue animée qu'elle avait devant les yeux, le vieux comte Christian, qui récitait mentalement ses prières du matin dans son oratoire. Et dans ce soupir de componction qui venait de lui échapper à son insu, comme il arrive souvent aux vieillards, le même soupir diabolique qu'elle avait cru entendre à son oreille un soir, après avoir chanté l'hymne de Notre-Dame de Consolation. Un peu honteuse de sa frayeur, Consuelo resta enchaînée à sa place par le respect et par la crainte de troubler une si fervente prière. Rien n'était plus solennel et plus touchant à voir que ce vieillard prosterné sur la pierre, offrant son cœur à Dieu au lever de l'aube et plongé dans une sorte de ravissement céleste qui semblait fermer ses sens à toute perception du monde physique. Sa noble figure ne trahissait aucune émotion douloureuse. Un vent frais, pénétrant par la porte que Consuelo avait laissée entr'ouverte, agitait autour de sa nuque une demi-couronne de cheveux argentés. Et son vaste front, dépouillé jusqu'au sommet du crâne, avait le luisant jaunâtre des vieux marbres. Revêtu d'une robe de chambre de laine blanche à l'ancienne mode, qui ressemblait un peu à un froc de moine et qui formait sur ses membres amaigris de gros plis raides et lourds, il avait tout l'air d'une statue de tombeau. Et quand il eut repris son immobilité, Consuelo fut encore obligé de le regarder à deux fois pour ne pas retomber dans sa première illusion. Après qu'elle l'eut considéré attentivement, en se plaçant un peu de côté pour le mieux voir, elle se demanda, comme malgré elle, tout au milieu de son admiration et de son attendrissement, si le genre de prière que ce vieillard adressait à Dieu était bien efficace pour la guérison de son malheureux fils, et si une âme aussi passivement soumise aux arrêts du dogme et aux rudes décrets de la destinée avait jamais possédé la chaleur, l'intelligence et le zèle qu'Albert aurait eu besoin de trouver dans l'âme de son père. Albert aussi avait une âme mystique. Lui aussi avait eu une vie dévote et contemplative. Mais, d'après tout ce qu'Amélie avait raconté à Consuelo, d'après ce qu'elle avait vu de ses propres yeux depuis quelques jours passés dans le château, Albert n'avait jamais rencontré le conseil, le guide et l'ami qui eût pu diriger son imagination, apaiser la véhémence de ses sentiments et attendrir la rudesse brûlante de sa vertu. Elle comprenait qu'il avait dû se sentir isolé et se regarder comme étranger au milieu de cette famille obstinée à le contredire ou à le plaindre en silence, comme un hérétique ou comme un fou. Elle le sentait elle-même, à l'espèce d'impatience que lui causait cette impassible et interminable prière adressée au ciel, comme pour se remettre à lui seul du soin qu'on eût dû prendre soi-même de chercher le fugitif, de le rejoindre, de le persuader et de le ramener. Car il fallait de bien grands accès de désespoir et un trouble intérieur inexprimable pour arracher ainsi un jeune homme si affectueux et si bon du sein de ses proches, pour le jeter dans un complet oubli de soi-même et pour lui ravir jusqu'au sentiment des inquiétudes et des tourments qu'il pouvait causer aux êtres les plus chers. Cette résolution qu'on avait prise de ne jamais le contrarier et de feindre le calme au milieu de l'épouvante semblait à l'esprit ferme et droit de Consuelo une sorte de négligence coupable ou d'erreur grossière. Il y avait là l'espèce d'orgueil et d'égoïsme qu'inspire une foi étroite aux gens qui consentent à porter le bandeau de l'intolérance et qui croient à un seul chemin, rigidement tracé par la main du prêtre, pour aller au ciel. « Dieu bon !» disait Consuelo en priant dans son cœur. « Cette grande âme d'Albert, si ardente, si charitable, si pure de passions humaines, serait-elle donc moins précieuse à vos yeux que les âmes patientes et oisives qui acceptent les injustices du monde et voient sans indignation la justice et la vérité méconnues sur la terre? Était-il donc inspiré par le diable, ce jeune homme, qui, dès son enfance, donnait tous ses jouets et tous ses ornements aux enfants des pauvres, et qui, au premier éveil de la réflexion, voulait se dépouiller de toutes ses richesses pour soulager les misères humaines? Et eux, ces doux et bénévoles seigneurs, qui plaignent le malheur avec des larmes stériles et le soulagent avec de faibles dons, sont-ils bien sages de croire qu'ils vont gagner le ciel avec des prières et des actes de soumission à l'empereur et au pape, plus qu'avec de grandes œuvres et d'immenses sacrifices? Non, Albert n'est pas fou. Une voix me crie au fond de l'âme que c'est le plus beau type du juste et du saint qui soit sorti des mains de la nature. Et si des rêves pénibles, des illusions bizarres ont obscurci la lucidité de sa raison, s'il est devenu aliéné, enfin, comme il le croit, c'est la contradiction aveugle, c'est l'absence de sympathie, c'est la solitude du cœur qui ont amené ce résultat déplorable. J'ai vu la logette où le Tasse a été enfermé comme fou, et j'ai pensé que peut-être il n'était qu'exaspéré par l'injustice. J'ai entendu traiter de fou dans les salons de Venise ces grands saints du christianisme dont l'histoire touchante m'a fait pleurer et rêver dans mon enfance. On appelait leurs miracles des jongleries et leurs révélations des songes maladifs. Mais de quel droit ces gens-ci, ce pieux vieillard, cette timide chanoinesse qui croit aux miracles des saints et au génie des poètes, prononcent-ils sur leur enfant cette sentence de honte et de réprobation qui ne devrait s'attacher qu'aux infirmes et aux scélérats? Fou ! Mais c'est horrible et repoussant, la folie! C'est un châtiment de Dieu après les grands crimes. Et à force de vertu, un homme deviendrait fou. Je croyais qu'il suffisait de faiblir sous le poids d'un malheur immérité pour avoir droit au respect autant qu'à la pitié des hommes. Et si j'étais devenue folle, moi? Si j'avais blasphémé le jour terrible où j'ai vu Anzoletto dans les bras d'une autre, j'aurais donc perdu tout droit aux conseils, aux encouragements et aux soins spirituels de mes frères les chrétiens? On m'eût donc chassé ou laissé errante sur les chemins en disant « Il n'y a pas de remède pour elle, faisons-lui l'aumône et ne lui parlons pas. » Car pour avoir trop souffert, elle ne peut plus rien comprendre. Eh bien, c'est ainsi qu'on traite ce malheureux comte Albert. On le nourrit, on l'habille, on le soigne, on lui fait en un mot l'aumône d'une sollicitude puérile. Mais on ne lui parle pas. On se tait quand il interroge. On baisse la tête ou on la détourne quand il cherche à persuader. On le laisse fuir quand l'horreur de la solitude l'appelle dans des solitudes plus profondes encore. Et on attend qu'il revienne, en priant Dieu de le surveiller et de le ramener sain et sauf, comme si l'océan était entre lui et les objets de son affection. Et cependant, on pense qu'il n'est pas loin. On me fait chanter pour l'éveiller, s'il est en proie au sommeil léthargique, dans l'épaisseur de quelques murailles ou dans le tronc de quelques vieux arbres voisins. Et l'on n'a pas su explorer tous les secrets de cette antique masure. On n'a pas creusé jusqu'aux entrailles de ce sol miné. Ah, si j'étais le père ou la tante d'Albert, je n'aurais pas laissé pierre sur pierre avant de l'avoir retrouvé. Pas un arbre de la forêt ne serait resté debout avant de me l'avoir rendu. Perdu dans ses pensées, Consuelo était sorti sans bruit de l'oratoire du comte Christian. et elle avait trouvé, sans savoir comment, une porte sur la campagne. Elle errait parmi les sentiers de la forêt et cherchait les plus sauvages, les plus difficiles, guidée par un instinct romanesque et plein d'héroïsme qui lui faisait espérer de retrouver Albert. Aucun attrait vulgaire, aucune ombre de fantaisie imprudente ne la portait à ce dessein aventureux. Albert remplissait son imagination et occupait tous ses rêves, il est vrai. Mais à ses yeux, ce n'était point un jeune homme beau et enthousiasmé d'elle qu'elle allait cherchant dans les lieux déserts pour le voir et se trouver seule avec lui. C'était un noble infortuné qu'elle s'imaginait pouvoir sauver, ou tout au moins calmer par la pureté de son zèle. Elle eût cherché de même un vénérable ermite malade pour le soigner, ou un enfant perdu pour le ramener à sa mère. Elle était un enfant elle-même. Et cependant, il y avait en elle une révélation de l'amour maternel. Il y avait une foi naïve, une charité brûlante, une bravoure exaltée. Elle rêvait et entreprenait ce pèlerinage comme Jeanne d'Arc avait rêvé et entrepris la délivrance de sa patrie. Il ne lui venait pas seulement à l'esprit qu'on pût railler ou blâmer sa résolution. Elle ne concevait pas qu'Amélie, guidée par la voie du sang, et, dans le principe, par les espérances de l'amour, n'eût pas conçu le même projet, et qu'elle n'eût pas réussi à l'exécuter. Elle marchait avec rapidité. Aucun obstacle ne l'arrêtait. Le silence de ces grands bois ne portait plus la tristesse ni l'épouvante dans son âme. Elle voyait la piste des loups sur le sable et ne s'inquiétait pas de rencontrer leurs troupes affamées. Il lui semblait qu'elle était poussée par une main divine qui la rendait invulnérable. Elle, qui savait le Tasse par cœur, pour l'avoir chanté toutes les nuits sur les lagunes, elle s'imaginait marcher à l'abri de son talisman, comme le généreux Ubald à la reconnaissance de Renaud à travers les embûches de la forêt enchantée. Elle marchait svelte et légère parmi les ronces et les rochers, le front rayonnant d'une secrète fierté, et les joues colorées d'une légère rougeur. Jamais elle n'avait été plus belle à la scène dans les rôles héroïques, et pourtant, elle ne pensait pas plus à la scène en cet instant qu'elle n'avait pensé à elle-même en montant sur le théâtre. De temps en temps, elle s'arrêtait, rêveuse et recueillie. « Et si je venais à le rencontrer tout à coup ?» se disait-elle. « Que lui dirais-je qui pût le convaincre et le tranquilliser ?» Je ne sais rien de ces choses mystérieuses et profondes qui l'agitent. Je les comprends à travers un voile de poésie qu'on a à peine soulevé devant mes yeux, ébloui de visions si nouvelles. Il faudrait avoir plus que le zèle et la charité. Il faudrait avoir la science et l'éloquence pour trouver des paroles dignes d'être écoutées par un homme si supérieur à moi, par un fou si sage auprès de tous les êtres raisonnables au milieu desquels j'ai vécu. Allons, Dieu m'inspirera quand le moment sera venu. Car pour moi, j'aurai beau chercher, je me perdrai de plus en plus dans les ténèbres de mon ignorance. Ah, si j'avais lu beaucoup de livres de religion et d'histoire, comme le comte Christian et la chanoinesse Wenceslavoie, si je savais par cœur toutes les règles de la dévotion et toutes les prières de l'Église, je trouverais bien à en appliquer heureusement quelqu'une à la circonstance. Mais j'ai à peine compris, à peine retenu par conséquent quelques phrases du catéchisme, et je ne sais prier qu'au lutrin. Quelque sensible qu'il soit à la musique, je ne persuaderai pas ce savant théologien avec une cadence ou avec une phrase de chant. N'importe. Il me semble qu'il y a plus de puissance dans mon cœur pénétré et résolu que dans toutes les doctrines étudiées par ses parents, si bons et si doux, mais indécis et froids comme les brouillards et les neiges de leur patrie. Chapitre 35. Après bien des détours et des retours dans les inextricables sentiers de cette forêt jetée sur un terrain montueux et tourmenté, Consuelo se trouva sur une élévation semée de roches et de ruines qu'il était assez difficile de distinguer les unes des autres, tant la main de l'homme, jalouse de celle du temps, y avait été destructive. Ce n'était plus qu'une montagne de débris, où jadis un village avait été brûlé par l'ordre du redoutable aveugle, le célèbre chef calixtin Jean Ziska, dont Albert croyait descendre, et dont il descendait peut-être en effet. Durant une nuit profonde et lugubre, le farouche et infatigable capitaine, ayant commandé à sa troupe de donner l'assaut à la forteresse des géants, alors gardée pour l'empereur par des Saxons, il avait entendu murmurer ses soldats, et un entre autres dire non loin de lui « Ce maudit aveugle croit que pour agir, chacun peut, comme lui, se passer de la lumière. » Là-dessus, Ziska, se tournant vers un des quatre disciples dévoués qui l'accompagnaient partout, guidant son cheval ou son chariot et lui rendant compte avec précision de la position topographique et des mouvements de l'ennemi, il lui avait dit, avec cette sûreté de mémoire ou cet esprit de divination qui suppléait en lui au sens de la vue, « Il y a ici près un village. »« Oui, père, » avait répondu le conducteur Tabourite. « À ta droite, sur une éminence en face de la forteresse. » Alors, Ziska avait fait appeler le soldat mécontent dont le murmure avait fixé son attention. « Enfant, lui avait-il dit, tu te plains des ténèbres. Va-t'en bien vite mettre le feu au village qui est sur l'éminence à ma droite, et à la lueur des flammes, nous pourrons marcher et combattre. » L'ordre terrible avait été exécuté. Le village incendié avait éclairé la marche et l'assaut des Tabourites. Le château des géants avait été emporté en 2 heures, et Ziska en avait pris possession. Le lendemain, au jour, on remarqua, et on lui fit savoir, qu'au milieu des décombres du village, et tout au sommet de la colline qui avait servi de plateforme aux soldats pour observer les mouvements de la forteresse, un jeune chêne, unique dans ses contrées et déjà robuste, était resté debout et verdoyant, préservé apparemment de la chaleur des flammes qui montaient autour de lui par l'eau d'une citerne qui baignait ses racines. « Je connais bien la citerne, » avait répondu Ziska. « 10 des nôtres y ont été jetés par les damnés habitants de ce village, et depuis ce temps, la pierre qui la couvre n'a point été levée. Qu'elle y reste et leur serve de monument, puisque aussi bien nous ne sommes pas de ceux qui croient les âmes errantes repoussées à la porte des cieux par le patron romain, Pierre, le porte-clé dont ils ont fait un saint, parce que les cadavres pourrissent dans une terre non bénite par la main des prêtres de Bélial. Que les os de nos frères reposent en paix dans cette citerne. Leurs âmes sont vivantes. Elles ont déjà revêtu d'autres corps, et ces martyrs combattent parmi nous, quoique nous ne les connaissions point. Quant aux habitants du village, ils ont reçu leur paiement. Et quant au chêne, il a bien fait de se moquer de l'incendie. Une destinée plus glorieuse que celle d'abriter des mécréants lui était réservée. Nous avions besoin d'une potence, et la voici trouvée. Allez-moi chercher ces 20 moines augustins que nous avons pris hier dans leur couvent, et qui se font prier pour nous suivre. Courons les pendre, haut et court, aux branches de ce brave chêne, à qui cet ornement rendra tout à fait la santé. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le chêne, depuis ce temps-là, avait été nommé le Hussite, la pierre de la citerne, pierre d'épouvante, et le village détruit sur la colline abandonnée, Schreckenstein. Consuelo avait déjà entendu raconter dans tous ses détails, par la baronne Amélie, cette sombre chronique. Mais comme elle n'en avait encore aperçu le théâtre que de loin, ou pendant la nuit au moment de son arrivée au château, elle ne l'eût pas reconnu si, en jetant les yeux au-dessous d'elle, elle n'eût vu, au fond du ravin que traversait la route, les formidables débris du chêne brisés par la foudre, et qu'aucun habitant de la campagne, aucun serviteur du château n'avait osé dépecer ni enlever. Une crainte superstitieuse s'attachant encore pour eux, après plusieurs siècles, à ce monument d'horreur, à ce contemporain de Jean Ziska. Les visions et les prédictions d'Albert avaient donné à ce lieu tragique un caractère plus émouvant encore. Aussi, Consuelo, en se trouvant seule et amenée à l'improviste à la pierre d'épouvante, sur laquelle même elle venait de s'asseoir, brisée de fatigue, sentit-elle faiblir son courage et son cœur se fermer, étrangement. Non seulement, au dire d'Albert, mais à celui de tous les montagnards de la contrée, des apparitions épouvantables hantaient le Schreckenstein, et en écartaient les chasseurs assez téméraires pour venir y guetter le gibier. Cette colline, quoique très rapprochée du château, était donc souvent le domicile des loups et des animaux sauvages, qui y trouvaient un refuge assuré contre les poursuites du baron et de ses limiers. L'impassible Frédéric ne croyait pas beaucoup pour son compte au danger d'y être assailli par le diable, avec lequel il n'eut pas craint d'ailleurs de se mesurer corps à corps. Mais, superstitieux à sa manière, et dans l'ordre de ses préoccupations dominantes, il était persuadé qu'une pernicieuse influence y menaçait ses chiens, et les y atteignait de maladies inconnues et incurables. Il en avait perdu plusieurs pour les avoir laissés se désaltérer dans les filets d'eau claire qui s'échappaient des veines de la colline, et qui provenaient peut-être de la citerne condamnée, antique tombeau des Hussites. Aussi rappelait-il de toute l'autorité de son sifflet sa griffonne panquin ou son double nez saphir lorsqu'il s'oubliait aux alentours du Schreckenstein. Consuelo, rougissant des accès de pusillanimité qu'elle avait résolu de combattre, s'imposa de rester un instant sur la pierre fatale et de ne s'en éloigner qu'avec la lenteur qui convient à un esprit calme en ces sortes d'épreuves. Mais, au moment où elle détournait ses regards du chêne calciné qu'elle apercevait à 200 pieds au-dessous d'elle, pour les reporter sur les objets environnants, elle vit qu'elle n'était pas seule sur la pierre d'épouvante, et qu'une figure incompréhensible venait de s'y asseoir à ses côtés, sans annoncer son approche par le moindre bruit. C'était une grosse tête, ronde et béante, remuant sur un corps contrefait, grêle et crochu comme une sauterelle, couvert d'un costume indéfinissable qui n'était d'aucun temps et d'aucun pays, et dont le délabrement touchait de près à la malpropreté. Cependant, cette figure n'avait d'effrayant que son étrangeté et l'imprévu de son apparition, car elle n'avait rien d'hostile. Un sourire doux et caressant courait sur sa large bouche, et une expression enfantine adoucissait l'égarement d'esprit que trahissait le regard vague et les gestes précipités. Consuelo, en se voyant seule avec un fou dans un endroit où personne assurément ne fût venu lui porter secours, eut véritablement peur, malgré les révérences multipliées et les rires affectueux que lui adressait cet insensé. Elle crut devoir lui rendre ses saluts et ses signes de tête pour ne pas l'irriter. Mais elle se hâta de se lever et de s'éloigner, toute pâle et toute tremblante. Le fou ne la poursuivit point et ne fit rien pour la rappeler. Il grimpa seulement sur la pierre d'épouvante pour la suivre des yeux et continua à la saluer de son bonnet en sautillant et en agitant ses bras et ses jambes, tout en articulant à plusieurs reprises un mot bohème que Consuelo ne comprit pas. Quand elle se vit à une certaine distance de lui, elle reprit un peu de courage pour le regarder et l'écouter. Elle se reprochait déjà d'avoir eu horreur de la présence d'un de ces malheureux, que dans son cœur, elle plaignait et vengeait des mépris et de l'abandon des hommes un instant auparavant. « C'est un fou bienveillant, » se dit-elle. « C'est peut-être un fou par amour. » Il n'a trouvé de refuge contre l'insensibilité et le dédain que sur cette roche maudite où nul autre n'oserait habiter, et où les démons et les spectres sont plus humains pour lui que ses semblables, puisqu'ils ne l'en chassent pas et ne troublent pas l'enjouement de son humeur. Pauvre homme, qui rit et folâtre comme un petit enfant avec une barbe grisonnante et un dos voûté. Dieu, sans doute, te protège et te bénit dans ton malheur, puisqu'il ne t'envoie que des pensées riantes, et qu'il ne t'a point rendu misanthrope et furieux comme tu aurais droit de l'être. » Le fou, voyant qu'elle ralentissait sa marche, et paraissant comprendre son regard bienveillant, se mit à lui parler bohème avec une excessive volubilité. et sa voix avait une douceur extrême, un charme pénétrant qui contrastait avec sa laideur. Consuelo, ne le comprenant pas, songea qu'elle devait lui donner l'aumône. Et, tirant une pièce de monnaie de sa poche, elle la posa sur une grosse pierre, après avoir élevé le bras pour la lui montrer et lui désigner l'endroit où elle la déposait. Mais le fou se mit à rire plus fort en se frottant les mains et en lui disant en mauvais allemand « Inutile, inutile, Zdenko n'a besoin de rien, Zdenko est heureux, bien heureux, Zdenko a de la consolation, consolation, consolation !» Puis, comme s'il se fût rappelé un mot qu'il cherchait depuis longtemps, il s'écria avec un éclat de joie et intelligiblement, quoiqu'il prononçât fort mal. « Consuelo, Consuelo, Consuelo de mi alma !» Consuelo s'arrêta stupéfaite et lui adressant la parole en espagnol. « Pourquoi m'appelles-tu ainsi ? » lui cria-t-elle. « Qui t'a appris ce nom ? Comprends-tu la langue que je te parle ?» À toutes ces questions, dont Consuelo attendit vainement la réponse, le fou ne fit que sautiller en se frottant les mains comme un homme enchanté de lui-même. Et d'aussi loin qu'elle put saisir les sons de sa voix, elle lui entendit répéter son nom sur des inflexions différentes, avec des rires et des exclamations de joie, comme lorsqu'un oiseau parleur s'essaie à articuler un mot qu'on lui a appris et qu'il entrecoupe du gazouillement de son chant naturel. En reprenant le chemin du château, Consuelo se perdait dans ses réflexions. « Qui donc, se disait-elle, a trahi le secret de mon incognito, au point que le premier sauvage que je rencontre dans ces solitudes me jette mon vrai nom à la tête? Ce fou m'aurait-il vu quelque part? Ces gens-là voyagent, peut-être a-t-il été en même temps que moi à Venise ?» Elle chercha en vain à se rappeler la figure de tous les mendiants et de tous les vagabonds qu'elle avait l'habitude de voir sur les quais et sur la place Saint-Marc. Celle du fou de la pierre d'épouvante ne se présenta point à sa mémoire. Mais, comme elle repassait le pont-levis, il lui vint à l'esprit un rapprochement d'idées plus logique et plus intéressant. Elle résolut d'éclaircir ses soupçons et se félicita secrètement de n'avoir pas tout à fait manqué son but dans l'expédition qu'elle venait de tenter. Chapitre 36. Lorsqu'elle se retrouva au milieu de la famille abattue et silencieuse, elle qui se sentait pleine d'animation et d'espérance, elle se reprocha la sévérité avec laquelle elle avait accusé secrètement l'apathie de ces gens profondément affligés. Le comte Christian et la chanoinesse ne mangèrent presque rien à déjeuner, et le chapelain n'osa pas satisfaire son appétit. Amélie paraissait en proie à un violent accès d'humeur. Lorsqu'on se leva de table, le vieux comte s'arrêta un instant devant la fenêtre, comme pour regarder le chemin sablé de la Garenne par où Albert pouvait revenir, et il secoua tristement la tête, comme pour dire « Encore un jour qui a mal commencé et qui finira de même ». Consuelo s'efforça de les distraire en leur récitant avec ses doigts sur le clavier quelques-unes des dernières compositions religieuses de Porpora, qu'ils écoutaient toujours avec une admiration et un intérêt particulier. Elle souffrait de les voir si accablés et de ne pouvoir leur dire qu'elle avait de l'espérance. Mais quand elle vit le comte reprendre son livre et la chanoinesse son aiguille, quand elle fut appelée auprès du métier de cette dernière pour décider si un certain ornement devait avoir au centre quelques points bleus ou blancs, elle ne put s'empêcher de reporter son intérêt dominant sur Albert, qui expirait peut-être de fatigue et d'inanition dans quelque coin de la forêt, sans savoir retrouver sa route, ou qui reposait peut-être sur quelque froide pierre enchaînée par la catalepsie foudroyante, exposée aux loups et aux serpents, tandis que, sous la main adroite et persévérante de la tendre Wenceslawa, les fleurs les plus brillantes semblaient éclore par milliers sur la trame, arrosées parfois d'une larme furtive, mais stérile. Aussitôt qu'elle put engager la conversation avec la boudeuse Amélie, elle lui demanda ce que c'était qu'un fou fort mal fait qui courait le pays singulièrement vêtu, en riant comme un enfant aux personnes qu'il rencontrait. « Eh, c'est Zenko !» répondit Amélie. « Vous ne l'aviez pas encore aperçu dans vos promenades ? On est sûr de le rencontrer partout, car il n'habite nulle part. » « Je l'ai vu ce matin, pour la première fois, » dit Consuelo, « et j'ai cru qu'il était l'hôte attitré du Schreckenstein. C'est donc là que vous avez été courir dès l'aurore ? Je commence à croire que vous êtes un peu folle vous-même, ma chère Nina, d'aller ainsi seule de grand matin dans ces lieux déserts. Vous pourriez faire de plus mauvaises rencontres que celles de l'inoffensif idiot Zenko. » « Être abordé par quelques loups à jeun ? » reprit Consuelo en souriant. « La carabine du baron, votre père, doit, ce me semble, couvrir de sa protection tout le pays. »« Il ne s'agit pas seulement des bêtes sauvages, » dit Amélie. « Le pays n'est pas si sûr que vous croyez par rapport aux animaux les plus méchants de la création, les brigands et les vagabonds. Les guerres qui viennent de finir ont ruiné assez de familles pour que beaucoup de mendiants se soient habitués à aller au loin demander l'aumône, le pistolet à la main. » Il y a aussi des nuées de ces ingaris égyptiens qu'en France on nous fait l'honneur d'appeler bohémiens, comme s'ils étaient originaires de nos montagnes pour les avoir infestés au commencement de leur apparition en Europe. Ces gens-là, chassés et rebutés de partout, lâches et obséquieux devant un homme armé, pourraient bien être audacieux avec une belle fille comme vous. Et je crains que votre goût pour les courses aventureuses ne vous expose plus qu'il ne convient à une personne aussi raisonnable que ma chère Porporina affecte de l'être. « Chère baronne, reprit Consuelo, quoique vous sembliez regarder la dent du loup comme un mince péril auprès de ceux qui m'attendent, je vous avouerai que je la craindrais beaucoup plus que celle des Ingari. Ce sont pour moi d'anciennes connaissances, et en général, il m'est difficile d'avoir peur des êtres faibles, pauvres et persécutés. Il me semble que je saurai toujours dire à ces gens-là ce qui doit m'attirer leur confiance et leur sympathie. Car s'il est si mal vêtu et si méprisé qu'il soit, il m'est impossible de ne pas m'intéresser à eux particulièrement. « Brava, ma chère !» s'écria Amélie avec une aigreur croissante. « Vous voilà tout à fait arrivé au beau sentiment d'Albert pour les mendiants, les bandits et les aliénés. Et je ne serais pas surprise de vous voir un de ces matins vous promener comme lui, appuyé sur le bras un peu malpropre et très mal assuré de l'agréable Zenko. » Ces paroles frappèrent Consuelo d'un trait de lumière qu'elle cherchait depuis le commencement de l'entretien, et qui la consola de l'amertume de sa compagne. Le comte Albert vit donc en bonne intelligence avec Zenko ? Demanda-t-elle avec un air de satisfaction qu'elle ne songea point à dissimuler. « C'est son plus intime, son plus précieux ami !» répondit Amélie avec un sourire de dédain. « C'est le compagnon de ses promenades, le confident de ses secrets, le messager, dit-on, de sa correspondance avec le diable. » Zenko et Albert sont les seuls qui osent aller à toute heure s'entretenir des choses divines les plus biscornues sur la pierre d'épouvante. Albert et Zenko sont les seuls qui ne rougissent point de s'asseoir sur l'herbe avec les Ingari qui font halte sous nos sapins, et de partager avec eux la cuisine dégoûtante que préparent ces gens-là dans leurs écuelles de bois. Ils appellent cela « communier », et on peut dire que c'est communier sous toutes les espèces possibles. Ah, quel époux, quel amant désirable que mon cousin Albert, lorsqu'il saisira la main de sa fiancée dans une main qui vient de presser celle d'un zingaro pestiféré pour la porter à cette bouche qui vient de boire le vin du calice dans la même coupe que Zenko. Tout ceci peut être fort plaisant, dit Consuelo, mais quant à moi, je n'y comprends rien du tout. « C'est que vous n'avez pas de goût pour l'histoire, » reprit Amélie, « et que vous n'avez pas bien écouté tout ce que je vous ai raconté des Hussites et des protestants, depuis plusieurs jours que je m'égosille à vous expliquer scientifiquement les énigmes et les pratiques saugrenues de mon cousin. Ne vous ai-je pas dit que la grande querelle des Hussites avec l'Église romaine était venue à propos de la communion sous les deux espèces? Le concile de Bâle avait prononcé que c'était une profanation de donner aux laïcs le sang du Christ sous l'espèce du vin, alléguant, voyez le beau raisonnement, que son corps et son sang étaient également contenus sous les deux espèces, et que qui mangeait l'un buvait l'autre, comprenez-vous? Il me semble que les pères du concile ne se comprenaient pas beaucoup eux-mêmes. Ils eussent dû dire, pour être dans la logique, que la communion du vin était inutile, mais profanatoire. Pourquoi, si, en mangeant le pain, on boit aussi le sang? C'est que les Hussites avaient une terrible soif de sang, et que les pères du concile les voyaient bien venir. Eux aussi avaient soif du sang de ce peuple, mais ils voulaient le boire sous l'espèce de l'or. L'Église romaine a toujours été affamée et altérée de ce suc de la vie des nations, du travail et de la sueur des pauvres. Les pauvres se révoltèrent et reprirent leur sueur et leur sang dans les trésors des abbayes et sur la chape des évêques. Voilà tout le fond de la querelle, à laquelle vinrent se joindre, comme je vous l'ai dit, le sentiment d'indépendance nationale et la haine de l'étranger. La dispute de la communion en fut le symbole. Rome et ses prêtres officiaient dans des calices d'or et de pierreries. Les Hussites affectaient d'officier dans des vases de bois pour fronder le luxe de l'Église et pour simuler la pauvreté des apôtres. Voilà pourquoi Albert, qui s'est mis dans la cervelle de se faire Hussite, après que ces détails du passé ont perdu toute valeur et toute signification. Albert, qui prétend connaître la vraie doctrine de Jean Hus, mieux que Jean Hus lui-même, invente toutes sortes de communions et s'en va communiant sur les chemins avec les mendiants, les païens et les imbéciles. C'était la manie des Hussites de communier partout, à toute heure et avec tout le monde. « Tout ceci est fort bizarre, » répondit Consuelo, « et ne peut s'expliquer pour moi que par un patriotisme exalté, porté jusqu'au délire, je le confesse, chez le comte Albert. La pensée est peut-être profonde, mais les formes qu'il y donne me semblent bien puériles pour un homme aussi sérieux et aussi savant. La véritable communion ne serait-elle pas plutôt l'aumône? Que signifient de vaines cérémonies passées de mode et que ne comprennent certainement pas ceux qui l'y associent? Quant à l'aumône, Albert ne s'en fait pas faute, et si on le laissait aller, il serait bientôt débarrassé de cette richesse, que pour ma part, je voudrais bien lui voir fondre dans la main de ses mendiants. Et pourquoi cela? Parce que mon père ne conserverait pas la fatale idée de m'enrichir en me faisant épouser ce démoniaque. Car il faut que vous le sachiez, ma chère Porporina, ajouta Amélie avec une intention malicieuse. Ma famille n'a point renoncé à cet agréable dessein. Ces jours derniers, lorsque la raison de mon cousin brilla comme un rayon fugitif du soleil entre les nuages, mon père revint à l'assaut avec plus de fermeté que je ne le croyais capable d'en montrer avec moi. Nous eûmes une querelle assez vive, dont le résultat paraît être qu'on essaiera de vaincre ma résistance par l'ennui de la séquestration, comme une citadelle qu'on veut prendre par la famine. Ainsi donc, si je faiblis, si je succombe, il faudra que j'épouse Albert malgré moi, malgré lui, et malgré une troisième personne qui fait semblant de ne pas s'en soucier le moins du monde. « Nous y voilà !» répondit Consuelo en riant. « J'attendais cet épigramme, et vous ne m'avez accordé l'honneur de causer avec vous ce matin que pour y arriver. Je la reçois avec plaisir, parce que je vois dans cette petite comédie de jalousie un reste d'affection pour le comte Albert, plus vive que vous ne voulez l'avouer. « Nina !» s'écria la jeune baronne avec énergie. « Si vous croyez voir cela, vous avez peu de pénétration. » Et si vous le voyez avec plaisir, vous avez peu d'affection pour moi. Je suis violente, orgueilleuse peut-être, mais non dissimulée. Je vous l'ai dit, la préférence qu'Albert vous accorde m'irrite contre lui, non contre vous. Elle blesse mon amour-propre, mais elle flatte mon espérance et mon penchant. Elle me fait désirer qu'il fasse pour vous quelque bonne folie qui me débarrasse de tout ménagement envers lui, en justifiant cette aversion que j'ai longtemps combattue, et qu'il m'inspire enfin sans mélange de pitié ni d'amour. « Dieu veuille, répondit Consuelo avec douceur, que ceci soit le langage de la passion et non celui de la vérité, car ce serait une vérité bien dure dans la bouche d'une personne bien cruelle. » L'aigreur et l'emportement qu'Amélie laissa percer dans cet entretien firent peu d'impression sur l'âme généreuse de Consuelo. Elle ne songeait plus, quelques instants après, qu'à son entreprise. Et ce rêve qu'elle caressait, de ramener Albert à sa famille, jetait une sorte de joie naïve sur la monotonie de ses occupations. Il lui fallait bien cela pour échapper à l'ennui qui la menaçait, et qui, étant la maladie la plus contraire et la plus inconnue jusqu'alors à sa nature active et laborieuse, lui fut devenue mortelle. En effet, lorsqu'elle avait donné à son élève, indocile et inattentive, une longue et fastidieuse leçon, il ne lui restait plus qu'à exercer sa voix et à étudier ses vieux auteurs. Mais cette consolation, qui ne lui avait jamais manqué, lui était opiniâtrement disputée. Amélie, avec son oisiveté inquiète, venait à chaque instant la troubler et l'interrompre par de puériles questions ou des observations hors de propos. Le reste de la famille était affreusement morne. Déjà 5 mortels jours s'étaient écoulés sans que le jeune contreparût. Et chaque journée de cette absence ajoutait à l'abattement et à la consternation des précédentes. Dans l'après-midi, Consuelo, errant dans les jardins avec Amélie, vit Zenko sur le revers du fossé qui les séparait de la campagne. Il paraissait occupé à parler tout seul, et, à son ton, on eût dit qu'il se racontait une histoire. Consuelo arrêta sa compagne et la pria de lui traduire ce que disait l'étrange personnage. « Comment voulez-vous que je vous traduise des rêveries sans suite et sans signification ?» dit Amélie en haussant les épaules. « Voici ce qu'il vient de marmotter, si vous tenez à le savoir. Il y avait une fois une grande montagne toute blanche, et à côté une grande montagne toute noire, et à côté une grande montagne toute rouge. Cela vous intéresse-t-il beaucoup ?»« Peut-être, si je pouvais savoir la suite. Oh, que ne donnerais-je pas pour comprendre le bohème? Je veux l'apprendre. » « Ce n'est pas tout à fait aussi facile que l'italien ou l'espagnol, mais vous êtes si studieuse que vous en viendrez à bout si vous voulez. Je vous l'enseignerai, si cela peut vous faire plaisir. »« Vous serez un ange, à condition toutefois que vous serez plus patiente comme maîtresse que vous ne l'êtes comme élève. » »« Et maintenant, que dit ce Zenko ?»« Maintenant, ce sont ces montagnes qui parlent. » « Pourquoi, montagne rouge, as-tu écrasé la montagne toute noire? Et toi, montagne blanche, toute blanche, pourquoi as-tu laissé écraser la montagne noire, toute noire ?» Ici, Zdenko se mit à chanter avec une voix grêle et cassée, mais d'une justesse et d'une douceur qui pénétrèrent Consuelo jusqu'au fond de l'âme. Sa chanson disait: montagnes noires et montagnes blanches, il vous faudra beaucoup d'eau de la montagne rouge pour laver vos robes noires de crime et blanches d'oisiveté, vos robes souillées de mensonges, vos robes éclatantes d'orgueil. Les voilà toutes deux lavées, bien lavées, vos robes qui ne voulaient pas changer de couleur. Les voilà usées, bien usées, vos robes qui ne voulaient pas traîner sur le chemin. Voilà toutes les montagnes rouges, bien rouges. Il faudra toute l'eau du ciel pour les laver. Est-ce une improvisation ou une vieille chanson du pays ? Demanda Consuelo à sa compagne. Qui peut le savoir ? Répondit Amélie. Zenko est un improvisateur inépuisable ou un rhapsode bien savant. Nos paysans aiment passionnément à l'écouter et le respectent comme un saint, tenant sa folie pour un don du ciel plus que pour une disgrâce de la nature. Ils le nourrissent et le choient, et il ne tiendrait qu'à lui d'être l'homme le mieux logé et le mieux habillé du pays. car chacun se dispute le plaisir et l'avantage de l'avoir pour hôte. Il passe pour un porte-bonheur, pour un présage de fortune. Quand le temps menace, si Zenko vint à passer, on dit « ce ne sera rien, la grêle ne tombera pas ici ». Si la récolte est mauvaise, on prie Zenko de chanter. Et comme il promet toujours des années d'abondance et de fertilité, on se console du présent dans l'attente d'un meilleur avenir. Mais Zenko ne veut demeurer nulle part. Sa nature vagabonde l'emporte au fond des forêts. On ne sait point où il s'abrite la nuit, où il se réfugie contre le froid et l'orage. Jamais, depuis 10 ans, on ne l'a vu entrer sous un autre toit que celui du château des géants, parce qu'il prétend que ses aïeux sont dans toutes les maisons du pays et qu'il lui est défendu de se présenter devant eux. Cependant, il suit Albert jusque dans sa chambre, parce qu'il est aussi dévoué et aussi soumis à Albert que son chien Cinabre. Albert est le seul mortel qui enchaîne à son gré cette sauvage indépendance, et qui puisse d'un mot faire cesser son intarissable gaieté, ses éternelles chansons et son babil infatigable. Zenko a eu, dit-on, une fort belle voix, mais il l'a épuisée à parler, à chanter et à rire. Il n'est guère plus âgé qu'Albert, quoiqu'il ait l'apparence d'un homme de 50 ans. Ils ont été compagnons d'enfance. Dans ce temps-là, Zenko n'était qu'à demi fou. Descendant d'une ancienne famille, un de ses ancêtres figure avec quelque éclat dans la guerre des Hussites. Il montrait assez de mémoire et d'aptitude pour que ses parents, voyant la faiblesse de son organisation physique, l'eussent destiné au cloître. On l'a vu longtemps en habit de novice d'un ordre mendiant, mais on ne put jamais l'astreindre aux joues de la règle. Et quand on l'envoyait en tournée avec un des frères de son couvent et un âne chargé des dons des fidèles, il laissait là la besace, l'âne et le frère, et s'en allait prendre de longues vacances au fond des bois. Lorsqu'Albert entreprit ses voyages, Zenko tomba dans un noir chagrin, jeta le froc aux orties et se fit tout à fait vagabond. Sa mélancolie se dissipa peu à peu, mais l'espèce de raison qui avait toujours brillé au milieu de la bizarrerie de son caractère s'éclipsa tout à fait. Il ne dit plus que des choses incohérentes, manifesta toutes sortes de manies incompréhensibles et devint réellement insensé. Mais comme il resta toujours sobre, chaste et inoffensif, on peut dire qu'il est idiot plus que fou. Nos paysans l'appellent l'innocent et rien de plus. « Tout ce que vous m'apprenez de ce pauvre homme me le rend sympathique, » dit Consuelo. « Je voudrais bien lui parler. Il sait un peu l'allemand ?»« Il le comprend et il peut le parler tant bien que mal. Mais comme tous les paysans bohèmes, il a horreur de cette langue. Et plongé d'ailleurs dans ses rêveries comme le voilà, il est fort douteux qu'il vous réponde si vous l'interrogez. » « Essayez donc de lui parler dans sa langue et d'attirer son attention sur nous, » dit Consuelo. Amélie appela Zenko à plusieurs reprises, lui demandant en bohémien s'il se portait bien et s'il désirait quelque chose. Mais elle ne put jamais lui faire relever sa tête penchée vers la terre, ni interrompre un petit jeu qu'il faisait avec 3 cailloux, un blanc, un rouge et un noir, qu'il poussait l'un contre l'autre en riant et en se réjouissant beaucoup chaque fois qu'il les faisait tomber. « Vous voyez que c'est inutile, » dit Amélie. « Quand il n'a pas faim ou qu'il ne cherche pas Albert, il ne nous parle jamais. Dans l'un ou l'autre cas, il vient à la porte du château, et s'il n'a que faim, il reste sur la porte. On lui donne ce qu'il désire, il remercie et s'en va. S'il veut voir Albert, il entre et va frapper à la porte de sa chambre, qui n'est jamais fermée pour lui. » Et où il reste des heures entières, silencieux et tranquille, comme un enfant craintif si Albert travaille, expansif et enjoué si Albert est disposé à l'écouter, jamais importun, à ce qu'il semble, à mon aimable cousin, et plus heureux en ceci qu'aucun membre de sa famille. Et lorsque le comte Albert devient invisible, comme dans ce moment-ci, par exemple, Zenko, qu'il aimait si ardemment, Zenko, qui perdit sa gaieté lorsque le comte entreprit ses voyages. Zenko, son compagnon inséparable, reste donc tranquille Il ne montre point d'inquiétude ?
Aucune.
Il dit qu'Albert est allé voir le grand Dieu et qu'il reviendra bientôt. C'est ce qu'il disait lorsqu'Albert parcourait l'Europe et que Zenko en avait pris son parti.
Et vous ne soupçonnez pas, chère Amélie, que Zenko puisse être mieux fondé que vous tous à goûter cette sécurité ? Vous ne vous êtes jamais avisé de penser qu'il était dans le secret d'Albert et qu'il veillait sur lui dans son délire ou dans sa léthargie ?
Nous y avons bien songé et on a observé longtemps ses démarches. Mais comme son patron Albert, il déteste la surveillance. Et plus fin qu'un renard dépisté par les chiens, il a trompé tous les efforts, déjoué toutes les ruses et dérouté toutes les observations. Il semble aussi qu'il ait, comme Albert, le don de se rendre invisible quand il lui plaît. Il a quelquefois disparu instantanément au regard fixé sur lui, comme s'il eût fendu la terre pour s'y engloutir, ou comme si un nuage l'eût enveloppé de ses voiles impénétrables. Voilà du moins ce qu'affirment nos gens, et ma tante Wenceslawa elle-même, qui n'a pas, malgré toute sa piété, la tête beaucoup plus forte à l'endroit du pouvoir satanique.
Mais vous, chère baronne, vous ne pouvez pas croire à ces absurdités.
Moi, je me range à l'avis de mon oncle Christian. Il pense que si Albert n'a, dans ses détresses mystérieuses, que le secours et l'appui de cet insensé, il est fort dangereux de les lui ôter, et qu'on risque, en observant et en contrariant les démarches de Zenko, de priver Albert, durant des heures et des jours entiers, des soins et même des aliments qu'il peut recevoir de lui. Mais de grâce, passons outre, ma chère Nina, en voilà bien assez sur ce chapitre, et cet idiot ne me cause pas le même intérêt qu'à vous. Je suis fort rebattue de ses romans et de ses chansons, et sa voix cassée me donne mal à la gorge.
Je suis étonnée, dit Consuelo en se laissant entraîner par sa compagne, que cette voix n'ait pas pour vos oreilles un charme extraordinaire. Toute éteinte qu'elle est, elle me fait plus d'impression que celle des plus grands chanteurs.
C'est que vous êtes blasé sur les belles choses et que la nouveauté vous amuse.
Cette langue qu'il chante est d'une singulière douceur, reprit Consuelo, et la monotonie de ses mélodies n'est pas ce que vous croyez. Ce sont au contraire des idées bien suaves et bien originales.
Pas pour moi, qui en suis obsédée, repartit Amélie. J'ai pris dans les commencements quelque intérêt aux paroles, pensant avec les gens du pays que c'était d'anciens chants nationaux, fort curieux sous le rapport historique. Mais comme il ne les dit jamais deux fois de la même manière, je suis persuadée que ce sont des improvisations, et je me suis bien vite convaincue que cela ne valait pas la peine d'être écouté, bien que nos montagnards s'imaginent y trouver à leur gré un sens symbolique.
Dès que Consuelo put se débarrasser d'Amélie, elle courut au jardin et retrouva Zenko à la même place, sur le revers du fossé, absorbé dans le même jeu. Certaine que ce malheureux avait des relations cachées avec Albert, elle était entrée furtivement dans l'office et y avait dérobé un gâteau de miel et de fleurs de farine, pétri avec soin des propres mains de la chanoinesse. Elle se souvenait d'avoir vu Albert, qui mangeait fort peu, montrer machinalement de la préférence pour ce mets que sa tante confectionnait toujours pour lui avec le plus grand soin. Elle l'enveloppa dans un mouchoir blanc, et, voulant le jeter à Zenko par-dessus le fossé, elle se hasarda à l'appeler. Mais comme il ne paraissait pas vouloir l'écouter, elle se souvint de la vivacité avec laquelle il lui avait dit son nom, et elle le prononça d'abord en allemand. Zenko sembla l'entendre, mais il était mélancolique dans ce moment-là, et sans la regarder, il répéta en allemand, en secouant la tête et en soupirant, « Consolation, consolation !» comme s'il eût voulu dire « Je n'espère plus de consolation. »«
Consuelo !» dit alors la jeune fille pour voir si son nom espagnol réveillerait la joie qu'il avait montrée le matin en le prononçant.
Aussitôt, Zenko abandonna ses cailloux et se mit à sauter et à gambader sur le bord du fossé, en faisant voler son bonnet par-dessus sa tête et en étendant les bras vers elle, avec des paroles bohèmes très animées et un visage rayonnant de plaisir et d'affection. Albert !» lui cria de nouveau Consuelo en lui jetant le gâteau. Zenko le ramassa en riant et ne déploya pas le mouchoir. Mais il disait beaucoup de choses que Consuelo était désespérée de ne pas comprendre. Elle écouta particulièrement et s'attacha à retenir une phrase qu'il répéta plusieurs fois en la saluant. Son oreille musicale l'aida à en saisir la prononciation exacte. Et dès qu'elle eut perdu Zenko de vue, qui s'enfuyait à toutes jambes, elle l'écrivit sur son carnet, en l'orthographiant à la vénitienne, et se réservant d'en demander le sens à Amélie. Mais, avant de quitter Zenko, elle voulut lui donner encore quelque chose qui témoigna à Albert l'intérêt qu'elle lui portait, d'une manière plus délicate. Et, ayant rappelé le fou, qui revint, docile à sa voix, elle lui jeta un bouquet de fleurs qu'elle avait cueilli dans la serre une heure auparavant et qui était encore frais et parfumé à sa ceinture. Zenko le ramassa, répéta son salut, renouvela ses exclamations et ses gambades et, s'enfonçant dans des buissons épais où un lièvre eût seul semblé pouvoir se frayer un passage, il y disparut tout entier. Consuelo suivit des yeux sa course rapide pendant quelques instants, en voyant le haut des branches s'agiter dans la direction du sud-est. Mais un léger vent qui s'éleva rendit cette observation inutile en agitant toutes les branches du taillis. Et Consuelo rentra, plus que jamais attaché à la poursuite de son dessein.